Bonsoir et bienvenue dans Nobody Cares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout.
Bonjour.
On est aujourd'hui avec Antoine.
Salut Aïcha.
Mais aussi avec Max Borg de clap.ch sur Twitter imdborg.
Bonjour Max.
Meilleur jeu de mots de tous les temps, fin du game. Bonjour Max.
Bonjour Aïcha, bonjour Antoine.
Tu peux te présenter en deux mots. Je sais que tu n'écris pas que pour clap.ch. Donc
Oui, effectivement, j'écris aussi pour deux sites italiens, notamment movieplayer.it et queenland.it. Je suis en train de couvrir le festival pour ces trois sites, donc Clap, Movieplayer et Queenland. J'ai fait mes études à l'Université de Lausanne en histoire esthétique du cinéma. J'ai obtenu mon master il y a quelques mois, donc là, à présent, je me lance dans le monde du travail. Enfin, on espère.
On espère. Donc c'est ton premier, c'est ta première fois au NIF en fait, c'est ça qui nous intéressait aussi.
Nos auditeurs français vont être ravis puisque c'est la première fois que quelqu'un dans notre émission a un accent qu'ils vont pouvoir qualifier de oh un accent suisse, alors que c'est pas un accent suisse.
On a des accents, moi j'ai un monstre accent, voyons. Toi aussi d'ailleurs Aïcha.
J'ai absolument pas d'accent, tu dis des mensonges.
Je suis sûr que tu en as.
On me dit que j'ai un accent parisien, alors va te faire foutre.
Au moins, ça m'est jamais arrivé. Je suis assez fier de le dire. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie.
Non, moi, ça m'arrive. Mes cousins parisiens disent que j'ai l'accent de Federer.
Yeah, c'est pas faux. Il y a derrière un petit quelque chose.
Moi, je me sentirais insulté. Non, l'accent suisse-allemand, c'est pas si mal que ça. Mais donc, Max, en fait, t'es finlandais. Hein, si...
Oui, exactement. Pour les...
Donc, au NIF, c'est assez apte, finalement, vu le nombre de films nordiques qui passent de temps en temps. Et cette année, d'ailleurs, il y a un film finlandais... en compétition qui s'appelle Love Mila, c'est ça?
Tu te rends compte que ça n'a aucun sens ce que tu dis, vu le nombre de films finlandais qui passent de temps en temps.
Nordique, je disais en général, scandinave, c'était.
Ok, donc, le nombre de films nordiques qui passent de temps en temps, c'est totalement. C'est presque un oxymore, quoi, c'est une antiphrase. C'est incohérent.
Ok, donc ok.
Je
dis des bêtises, c'est établi depuis longtemps dans cette émission, Aïcha. Et maintenant, laissons parler.
Oui, mais j'ai besoin de souligner quand tu dis de la merde.
Donc du coup, laissons un peu parler Max et donc donner ses premières impressions sur le festival. Peut-être, on est plus qu'à mi-chemin. Donc, qu'est-ce que tu as pensé pour l'instant? Qu'est-ce que tu penses de Neuchâtel? Qu'est-ce que tu penses de ce festival exceptionnellement caniculaire, d'ailleurs?
Oui, alors effectivement, c'est la première fois que je viens au NIF. J'ai déjà visité Neuchâtel en 2002, sauf erreur. Mais oui, c'est la première fois que je viens à ce festival, quoique j'en ai fréquenté d'autres similaires, notamment le Night Visions à Helsinki, quand j'habitais là-bas, il y a un an. Et je trouve que c'est un excellent festival. Le seul problème, c'est justement la température.
Oui, alors là,
on est vraiment au niveau que même pour les séances pour la presse au Temple du Ban, on doit vous filer une bouteille d'eau à l'entrée, sinon on n'arrive pas à survivre une heure et demie dedans.
Clairement, mais la température est vraiment exceptionnelle parce que l'année passée avait été plutôt pourrie d'ailleurs.
Pas que au Temple du Bain, hein.
Aux arcades aussi.
Dans tous les cinémas.
Tu peux demander des bouteilles d'eau à peu près partout.
Mais c'est au Temple surtout qu'il y a un problème de clim à l'intérieur.
Ouais, alors ils ont des problèmes de clim un peu partout, hein, les cinémas.
Moi je trouve que les arcades c'est pire personnellement.
Les arcades ça dépend où tu
quand
t'assieds.
Quand
c'est plein,
en fait. Non, quand c'est plein, je trouve que les arcades c'est pire. En séance presse ça allait sans problème, mais quand c'est plein les arcades, je trouve que c'est. Bon, non, c'est... le pire ça reste le bio.
Le pire ça reste le bio d'ailleurs, on l'évite autant que possible.
Bah, disons, si c'est plein, on meurt a priori.
Voilà, c'était. Bah, déjà, même sans grande température caniculaire, le bio c'est déjà pas terrible de ce point de vue-là, effectivement. Et donc, je sais pas ce que tu as vu, enfin on sait ce que tu as vu parce que c'est sur notre programme que tu veux en parler. Je sais pas si t'as d'autres.
En plus, on a vu plusieurs films ensemble.
Effectivement, donc ça serait un peu ridicule. Mais est-ce que t'as d'autres impressions à ajouter avant qu'on passe à Green Room? Je sais pas si tu as déjà un gros coup de cœur ou bien si t'attends encore des choses avec impatience.
Oui, tout à fait. Ben, je vais voir demain en séance de presse Men and Chicken, une comédie de science-fiction danoise, sauf erreur, avec Mads Mikkelsen.
Qui a une moustache dedans.
Exactement. Et puis Tale of Tales, qui est donc ce film fantastique italien, mais tourné en anglais. J'adore le réalisateur, Matteo Garrone, donc je suis curieux de le voir finalement. Puis ce soir, je vais voir Love de Gaspar Noé, dont tout le monde me dit des choses pas très positives, mais on verra bien.
Bah, je serai là aussi. Je crois que tu vas le voir aussi, Aïcha Love. Donc, on vous en reparlera.
Tout à fait.
On vous en reparlera certainement avant la fin du festival.
Et hey, moi aussi, je vais voir des séances avec des gens. Je suis pas une sans amis, en fait. Des fois.
On est aussi allé voir des séances.
Mais bon, en même temps, si tu viens pour un film de cul en 3D, c'est pas la meilleure option.
Il va y voir tout le monde, vachement, cette séance.
Ouais.
Qui n'est pas attiré par l'idée d'un film de cul en 3D?
Moi.
Bah, pourquoi tu viens alors?
Parce que
pour casser l'ambiance.
Parce que c'est le genre de film qu'il faut avoir vu. C'est la même, pour la même raison que je regarde Game of Thrones.
Game of Thrones, Détective.
Are we completing each other's
meatballs? Sandwiches. Donc,
en plus, à la même heure, il n'y a que Green Room qu'on a déjà vu. Donc,
et voilà, justement, à propos de Green Room, si on revenait un peu dessus, vu qu'on les a, on l'a vu tous les trois, ce serait l'occasion justement d'en reparler un petit peu. On est passé brièvement dessus dans notre dernière émission. Green Room, qui est un film de Jérémy Saunier, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Film américain. Est-ce que tu avais vu Blue Ruin, son premier film
Oui, je l'ai vu au Festival de Locarno il y a 2 ans. Donc, j'attendais avec beaucoup d'impatience son nouveau film parce que j'avais adoré Blue Ruin. Et puis mes collègues italiens qui l'avaient vu à Cannes m'avaient dit que c'était un très bon film. Du coup, j'étais très curieux de le voir. J'avais pas pu le voir. Il est passé à Genève il y a un mois parce que le délégué de la quinzaine à Cannes, il est aussi responsable du cinéma du Grütli à Genève. Mm-hmm. Du coup, il avait repris une partie de la quinzaine. J'avais pas pu le voir à l'époque.
Oui, il la diffusait donc, effectivement.
Donc j'ai pu le voir ici et je suis très content parce que c'est justement ce que j'avais adoré déjà dans Blue Ruin. Donc cet équilibre entre la violence très brutale à certains égards, le suspense, le rire, il y a beaucoup d'humour noir dedans. Puis même si on pourrait dire que c'est un passage au mainstream parce qu'il y a des acteurs connus dedans, ça reste un film vraiment de Jérémy Saunier. Et j'ai adoré notamment le personnage de Patrick Stewart qui joue, je crois, le skinhead le plus...
Le skinhead en chef.
Ouais, le plus charmant, éloquent que j'ai jamais vu à l'écran. Bah, comme je t'ai dit, je pense, à l'issue de la séance, j'ai adoré ce moment où il dit... Il fait sortir les gens de ce club qu'il gère parce qu'il va tuer des gens. Donc il invite les clients à sortir et il leur dit « And remember people, racial defense class will be on Wednesday unless you're told otherwise. »
Oui, il y a le côté casuel vraiment de la... C'était ça que j'ai trouvé très bien rendu dans le film aussi. Le côté vraiment habituel finalement de ces skinheads qui passent, qui sont des brutes horribles et qui ont un minutiae vraiment, qui sont aussi... à peu près aussi con que le premier venu, quoi. Ils sont pas spécialement... ils apparaissent pas spécialement...
Oh mon Dieu, il y a un scoop. Ça, c'est un scoop. Il y a des gens qui ont des idées de merde qui, au final, sont
non,
des gens totalement normaux.
Je veux dire, c'est très bien, c'est très
oui,
bien
oui.
exploité, très
oui,
bien voilà, rendu.
Oui,
et dans un film où t'as des skinettes, t'as vite fait de les représenter juste comme une némésis absolue.
Oui, oui, voilà. Non,
sans
mais
prendre le temps.
C'est...
Alors,
c'est aussi... Enfin, je trouve ça presque aussi énervant de devoir être émerveillé par ça. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce soit génial et qu'il soit représenté comme ça, mais je trouve ça tout aussi énervant de dire on montre des skinheads qui sont à côté de ça sont des gens normaux, que quand on dit oh mon Dieu, dans ce film il y a des personnages noirs qui volent rien. À aucun moment, ils volent un truc dans le film.
Je suis pas
c'est
sûr que ce
fou.
Soit la meilleure analogie. En l'occurrence, les skinheads, ils tabassent des gens et ils tuent des gens dans le film.
Oui, non, mais je parlais des autres skinheads, ceux qui sont juste là pour écouter le concert et tout
ça. Ah, je pense que la plupart sont quand même assez... bon, ils présentaient une distinction assez forte entre ces Red Laces, qui étaient un peu les hommes de main, le gang un peu en lui-même, et puis effectivement les gens qui venaient écouter le concert. Mais
oui, mais
je pense quand même que même les gens qui venaient écouter le concert sont pas non plus très fréquentables en vrai. Simplement, ce qui était plutôt justement ce qui m'intéressait, c'est le côté un peu vraiment.
Non, je pense qu'ils sont fréquentables en dehors. Enfin, non, j'ai.
Des types qui sont du genre à assister à des classes, des cours de défense raciale, je sais pas s'ils sont très fréquentables en
non,
général.
Non, mais attends, ce que je dis, c'est. J'ai pas dit qu'ils sont fréquentables, je dis qu'ils sont normaux. Tout comme.
Ah, oui, tout
voilà,
à fait.
Tu vois, que c'est le même du genre de. Ah, oh mon Dieu, mais il a violé quelqu'un, je comprends pas, c'est quelqu'un de normal.
Ouais,
ou bien, il a fait ceci, mais je comprends pas, c'est quelqu'un de normal. Hein.
Alors, tout à fait, le genre de banalité du mal, un peu.
Voilà, oui, montrer que les gens normaux sont aussi des gros fils de. Sont aussi des gros bâtards parfois.
Mais du coup, ouais, Patrick Stewart le représentait très bien, justement, ce côté un peu débonnaire. Qui avait pas du tout l'air d'un skinhead à première vue. Il
ah oui, surtout que dans un film de genre pareil, ces personnages-là ont la tendance à être très stéréotypés. Donc, voir justement Patrick Stewart qui incarne ce côté plus. Digne, élégant, disons que si il nous le disait pas, on ne le prendrait pas pour un skinhead.
Voilà, et puis surtout, du coup, ça le rend beaucoup plus efficace en termes de menace parce qu'il est très posé, c'est le seul qui est vraiment dont tu sens qu'il est entièrement compétent et au fait, alors que les autres finalement sont un peu tout aussi dépassés par les événements. Et pour le coup, c'est ça qui, je pense, rendait l'atmosphère un peu plus. On en a parlé la dernière fois, le film avait été qualifié de film un peu de genre de film de guerre.
Oui, exactement.
J'étais pas d'accord visuellement. Mais je trouve que dans le rythme et l'équilibre du film, il y avait ce côté un peu où on voyait les deux camps un peu incertains. Et ça, c'était un côté qui faisait plus pour moi film de guerre peut-être qu'un film où t'as une bande de néo-nazis tueurs qui vont sauvagement, qui sont super compétents et qui sont sans répit, quoi.
Oui, bah justement, Stewart, il joue pas un psychopathe, c'est plutôt un général qui donne des ordres à ses hommes, mais avec une grande humanité, un grand calme. C'est ça qui m'a frappé par rapport au film. Genre, justement, quand il ordonne à ses hommes de tuer les personnages principaux, ce groupe punk rock, il ne fait pas un speech à la Hitler, il dit tout simplement « Go ahead, kill them ».
Voilà, c'est pas non plus...
Je tiens à souligner une chose, c'est que il y a des gens qui écoutent notre émission habituellement et qui nous ont fait la remarque que nos accents anglais les impressionnaient. Donc Max, je pense que tu es en train de leur montrer ce que ça donne quelqu'un qui parle anglais réellement bien.
Mieux que nous, merci. En tout cas.
Thank you, my dear. That's very kind of you.
On a vu donc Green Room, qui était un peu, on peut dire que c'était un coup de cœur généralisé. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé.
J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. C'est parce que ça m'a pas
touché spécialement.
J'ai eu des coups de cœur pendant le NIF. Ben, Excess Flesh, j'ai dû en parler très rapidement, mais Excess Flesh, vraiment, ça a été. On peut revenir dessus, Max, du coup là. Est-ce qu'on peut revenir?
Oui, tout à fait. Excess Flesh, moi aussi, j'ai absolument adoré. C'est pas le genre de film que je m'attendais à voir à 1h du matin. J'en ai d'ailleurs parlé avec le réalisateur très rapidement après. Mais c'est un film vraiment dérangeant, puissant. On hésite presque à continuer à le regarder à un certain moment, mais on peut pas s'empêcher de continuer.
Et puis, il y a une chose que j'ai envie de souligner dans ce film, c'est que... Il a une compréhension, même si c'est pas son propos principal, au travers de certaines scènes, on remarque qu'il a une compréhension très très précise et très très exacte de ce qu'on peut ressentir dans certaines phases de la bipolarité. Il y a certains moments, certaines scènes avec le personnage de Jill, c'est ça?
Oui.
Certaines scènes avec elle où vraiment c'est des trucs dans lesquels, que j'ai vu, j'étais là, ok, j'ai déjà vécu ça. Et c'est rare les films qui, sans même que ce soit leur sujet principal, te font voir ça. Et du coup, c'est une chose que je trouve vraiment très très bien. Même si je ne sais jamais clairement dit qu'elle a une quelconque maladie mentale, ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il nous montre, c'est cool de pouvoir voir ça au cinéma, enfin cool, c'est voir ça au cinéma, c'est impressionnant parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un a une compréhension suffisante de ça pour être capable de le retranscrire à l'écran. Et je trouve ça vraiment, vraiment admirable.
Oui, et puis je voulais ajouter, c'était quand même un peu étrange de voir ce film-là. On l'a vu au Temple du Bas à 1h du matin. On l'a vu juste après Turbo Kid, qui est un autre de mes coups de cœur de cette édition du NIF. Je sais pas si t'es d'accord.
Idem, Turbo Kid, c'était... Excess Flash m'a autant bouleversé que Turbo Kid m'a éclaté. Il m'a rendu pleine de joie et c'était vraiment un gros gros kiff.
Ouais, disons que si vous aimez les films de genre plutôt années 80, un modèle très explicite, c'est Escape from New York de Carpenter. Vous allez adorer Turbo Kid. C'était un court métrage à la base sorti en 2011, Tears for Turbo, qui avait été proposé pour le film collectif ABCs of Death. Il n'a pas été pris, mais on leur a conseillé d'en faire un long métrage. Ce sont ces trois réalisateurs québécois qui ont fait ce film avec ce gamin qui se transforme en super-héros dans un monde post-apocalyptique qui fait très Mad Max, mais mêlé avec Carpenter. Justement, on entend au tout début le narrateur, cette voix typique qu'on a dans les bandes annonces américaines, qui dit « This is the future. It's the year 1997 ».
Oui, le côté un peu 2001 dans le futur ou 2001 l'Odyssée de l'espace qui paraît un peu éculé maintenant, c'est très bien. Donc du coup, c'est très bien parce que je me réjouis de voir Turbo Kid, je vais le voir vendredi.
Et c'est bourré de références à d'autres trucs aussi, genre Soylent Green, et il y a des blagues très très drôles. J'ai envie de citer juste une réplique du film. Y a un personnage dedans... Ce serait un spoiler. Donc,
Je le regarderai et Tu me diras après
ouais,
coup
voilà.
si
en plus, un autre truc qui fait tellement 80s, le méchant, c'est Michael Ironside. Il est tout simplement génial.
Alors, génial. Je me réjouis de ça. Et puis, dans le genre de séance un peu fun, on a aussi vu Deathgasm.
Oui,
tous les trois. On était aux arcades à minuit, donc dans une salle bourrée de métalleux énervés, visiblement, parce que c'était assez... assez l'ambiance. T'en as pensé quoi, Max, de Deathgasm?
Alors, en fait, moi, je ne l'ai pas vu aux arcades. Je l'ai vu hier soir.
Tombe du bas, du coup
Au passage, non.
Au passage.
Passage.
Je suis curieux comment
mais
voir
aussi,
comment il est passé,
là aussi, il y avait des métalleux un peu énervés. J'ai entendu justement des gens qui sortaient de la séance qui étaient déçus par le film.
Ah oui?
Parce qu'apparemment, c'était pas assez métalleux pour eux.
Mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu plus parodique et peut-être un peu plus tourné en dérision plutôt
bah oui,
que
bah oui parce que c'est quand même
référence quoi.
Bah c'est un film d'horreur néo-zélandais, c'est leur style à eux, ils ont.
Et sincèrement, je trouve ça vraiment irrespectueux de la part de Deathgasm de mal représenter une population aussi opprimée que les métalleux. Je trouve ça révoltant. Comment hostile.
Mais oui, j'étais donc en train de dire, il s'inscrit dans la tradition du cinéma de genre néo-zélandais, donc les premiers films de Peter Jackson ou bien
Black Sheep
ou bien What We Do in the Shadows qui était ici l'année dernière.
On avait vu aussi Housebound qui était aussi dans la même tradition, les mêmes producteurs.
Oui, donc on a un film gorissime mais qui est aussi on meurt de rire du début à la fin, rien que déjà le personnage principal au tout début, il commence en disant I cause the apocalypse.
Ouais, c'est vraiment le côté un peu deadpan de ces comédies. Enfin, je trouve deadpan dans le sens.
Non, elles sont.
Tu penses pas qu'elles. Disons.
Non, pour moi, c'est pas du deadpan.
Non, mais... pas deadpan dans le sens où les personnages le sont spécialement, mais un humour qui t'est vraiment lancé à la figure, puis qui va pas spécialement s'arrêter si.
Oui, donc c'est pas deadpan. C'est pas ça, deadpan.
Non, mais deadpan pour moi, c'est la capacité à dire une blague tout en étant sérieux. On est d'accord là-dessus.
Ouais, c'est oui.
Et c'est ce côté-là un peu vraiment qui était très bien illustré d'ailleurs par l'acteur principal du film. Il pouvait aligner les pires.
Mais pour moi non, parce que là pour moi c'est pas deadpan, c'est plus que le mec a
un manque d'expressivité.
Non, attends, j'ai oublié la fin de ma phrase. Je suis désolée, je suis vraiment très très fatiguée. Ça fait.
On l'est tous, t'inquiète pas, je reviens là-dessus.
Non, mais les afters, trop d'afters.
Donc, ouais, Deathgasm, c'était fun, mais vraiment le film de festival, quoi. Je pense pas que ça passerait aussi bien ailleurs qu'en festival. Contrairement peut-être à What We Do in the Shadows, qui était très fun en lui-même.
Oui, mais le problème, c'est quand même. Moi, je trouve, il y a un problème en général. En Suisse et en Europe, par rapport au cinéma de genre, c'est-à-dire les films qui vont. Un peu au-delà des conventions, ils risquent de pas sortir en dehors des festivals. Il suffit de regarder les sorties d'horreur en Suisse romande cette année. On a eu que The Woman in Black 2 en janvier, puis là il y a le remake de Poltergeist. On aura vraisemblablement Crimson Peak de Del Toro en automne.
Mais bon, là c'est parce que c'est vraiment
le sixième. Et le sixième Paranormal Activity, mais genre
Deathgasm,
on va le trouver à la limite en DVD ou sur Netflix, mais le voir en salle ce sera difficile.
Sérieux, ils en sont déjà à 6 Paranormal Activity?
Oui, tout à fait.
Mais ça fait pas 3 ans qu'il est sorti le premier?
Non, il est sorti en 2009.
Oh putain, je suis vieille.
Donc voilà. Voilà pour déprimer Aïcha, la déprime d'Aïcha du jour. Oui, alors Paranormal Activity en 2009, tu crois que ça ne pourrait pas prendre un coup aussi?
Mec, Aaron et Justin sont partis, je déprime déjà.
On va donc aussi vous parler un petit peu de quelques films qu'on a vus mardi et dont on ne vous a pas encore parlé. Brièvement, parce qu'après Max, tu dois nous quitter. On a vu ensemble Todos Están Muertos, qui est un film espagnol d'un réalisateur mexicain, je crois. C'était. Je me souviens plus exactement parce que. Les personnages principaux.
They are brother and sister!
Oui, alors. Non, c'est un film espagnol, la réalisatrice s'appelle Beatriz Sanchez, je suis pas sûr qu'elle soit mexicaine, mais en tout cas les personnages principaux dans le film sont d'origine mexicaine, hein, il me semble, en tout cas on voyait des drapeaux mexicains un peu chez eux, la musique mexicaine, donc...
Oui,
ah ouais, et tout de suite tu tires des conclusions, hein. On peut pas aimer le Mexique,
vu que mon père a un drapeau jurassien sur sa voiture où il est...
On peut pas juste aimer le Mexique, non, on est obligé d'être mexicain, hein.
Disons, si t'as une intense relation culturelle avec le Mexique, c'est peut-être parce que t'es immigrant mexicain en Espagne.
Tu sais, j'ai un drapeau du Troisième Reich chez moi, c'est pas pour autant que je suis nazi. C'est une blague. C'est un drapeau que Dieu, c'est un drapeau confédéré en fait.
Très drôle. Todos Están Muertos, c'était un film sur le deuil en fait. En gros, une Lupe qui est une ancienne star du rock, une ancienne star du rock, a perdu son frère et guitariste de son groupe dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait bourrée. Et elle a du mal, du coup elle est recluse. Chut, attends Aïcha, avant de faire.
C'est pour ça que c'est mieux de fumer.
Elle vit recluse, c'est sa mère qui s'occupe de son fils, qui est d'ailleurs joué par un acteur à la moue absolument insupportable. J'en pouvais plus de ce gamin au bout de 30 secondes. Il avait la bouche entrouverte en permanence, c'était assez.
Ce qui était gênant surtout, c'était sa moustache de préado, son petit duvet.
Oui, bon, ça c'est voilà, mais.
Non,
je le blâme moins que son expression faciale,
non,
un peu toujours surprise.
Non, ce duvet, c'est le genre de truc. Sérieusement, nous les meufs, on est obligés par la société. On est culpabilisé dans le fait de toujours avoir les jambes parfaitement épilées et les autres parties du corps, n'en parlons pas. Alors, j'aimerais bien qu'on commence à mettre la pression sur ces putains d'adolescents pour qu'ils se rasent leur espèce de petit mini-menu moustache, tu sais, qu'ils ont ce duvet moche, parce que c'est très très laid. Ça, c'est très très laid. Sérieusement, je trouve ça bien plus moche à voir que des putains d'aisselles poilues. Alors, merde, si nous, on nous fait ça... Get rid of the fucking moustache, you teenage fucker.
Voilà.
Je suis trop fatiguée pour terminer mes
phrases. Donc, Todos Están Muertos, la grand-mère décide d'invoquer pendant la fête des morts le fantôme de son fils pour qu'il résolve les problèmes qu'il a avec la fille en question. Et,
ça avec sa fille.
Voilà. Et donc, rapidement, on va comprendre, parce que moi, j'étais persuadé qu'en fait, c'était pas le fils ou que c'était pas... Mais que c'était en fait le père du gamin, son copain.
Ouais, je pense
que c'est... Et en fait, c'était les deux à la fois. On vous spoil outrageusement pour ce film, mais là, je pense qu'on peut pas en parler sans parler de la réaction perpétuelle d'Aïcha une fois qu'on a gentiment réalisé que c'était...
C'était frère et sœur. Attends, et le mieux, c'est quand même ta réaction, Antoine. Et je cite mot pour mot ce que tu m'as dit. Tu sais, c'est pas toujours mal l'inceste, Aïcha.
C'est pas toujours présent. J'ai pas dit ça comme ça, hors contexte, Aïcha.
Bon, mais moi, je cite aussi ce qu'a dit Aïcha à l'issue de la séance pendant le générique de fin. Elle a dit « Ouais, alors moi, j'aime pas du tout cette histoire incestueuse et pourtant, c'est moi la valaisanne du groupe.
» Non, je dis « Je suis la seule que l'inceste choque alors que c'est moi la valaisanne du groupe. »
Non, en l'occurrence, ta déviction de l'inceste, c'est que ça arrive parfois. Et disons, c'est pas ça qui devrait, en principe, te servir à être utilisé pour condamner spécifiquement les personnages en question.
Oh, t'es allé voir Der Bunker ?
Pas encore.
Parce que là aussi, là-dedans aussi, il y a some fucking Lannister bullshit.
Donc du coup, je vais voir ça, du coup, et je te reviendrai
dessus. Pas inceste, mais some fucking, tu verras...
That's some fucking
Alors, mais
justement,
Lannister bullshit.
C'est pas exemple tout à fait de côté dérangeant, mais c'est vrai que le film présentait le côté incestueux un peu légèrement, j'ai trouvé. La réaction de la mère quand elle dit au fantôme du fils qu'elle savait, c'est un peu flippant, je trouve. Enfin, flippant, dans le sens flippant en anglais.
Ouais, disons, moi, j'aurais trouvé mieux s'ils avaient joué sur cet aspect-là de manière un peu plus trash. Je fais un exemple, dans la 6e saison de True Blood, sauf erreur, il y avait cette fille qui était la sœur de Eric, c'est-à-dire ils ont été créés par le même vampire, mais ils ne sont pas frères et sœurs au sens biologique du terme, même s'ils se décrivent comme étant frères et sœurs. Et puis il y a justement un moment où les deux ils sont en train de coucher ensemble, puis après il y a Eric qui va vers Bill et lui fait « We fight like siblings, but we fuck like champions ». Alors ce côté trash, j'aime beaucoup pour aborder un sujet pareil, bon, dans une série comme True Blood, t'es obligé presque. Et donc là aussi, vu que le film est aussi censé être... Enfin, dans la volonté de la réalisatrice, je pense que c'était plutôt une comédie, Todos Están Muertos. Donc, jouer un peu plus sur le côté trash de cet aspect-là, ça aurait.
Oui, parce que pour le coup, c'est vrai que c'était assez un peu vraiment ambivalent, quoi. Un peu passé sous silence. Bon, ok.
Non, c'est genre, ah ouais, en fait, ton père, c'est aussi ton oncle. Et ta mère, c'est aussi ta tante. Tu veux une enchilada et c'est pas une remarque raciste parce qu'elle lui propose vraiment des enchiladas à un moment. Donc, je vous emmerde.
Ce qui me pousse aussi à penser qu'ils sont immigrants mexicains et qu'elle fait de la cuisine mexicaine.
Mec, il y a tellement de Suisses qui font des enchiladas.
Ouais, pas des vrais.
Les trucs qu'on fait...
Tex-Mex, un peu américanisé, mais on fait pas de la vraie cuisine mexicaine.
Ouais, ok, peut-être.
Voilà. Donc voilà, Todos Están Muertos. Mais c'était un beau film, j'ai trouvé, honnêtement. La musique était chouette. C'était un peu lent, mais il y avait des... Bon, après, c'était tout filmé d'un peu trop près, en fait. C'était assez dérangeant aussi. Max, un avis sur la...
Ouais, alors moi, franchement, j'ai pas réussi à m'accrocher à cette histoire dès le début.
Pareil, ça va totalement.
Je sais pas, peut-être que
ça m'a pas intéressé une seule seconde.
L'actrice principale portait bien le film pour moi, donc c'était ça qui m'a maintenu un peu intéressé. Puis l'acteur qui jouait le Uncle Brother.
Ouais, mais tu vois, comme on parle de l'inceste, justement, si ils avaient fait leur travail comme il faut, ce moment-là aurait été choquant.
C'est ça qui va sortir du film, en fait.
Quand on apprend que le père du gamin, c'est en fait son oncle, moi, ma réaction, ça a été juste j'en ai rien à foutre.
Mais c'est ça qui m'a sorti du truc, en fait. Si ça avait été vraiment traité de façon... Quand j'ai réalisé ça, puis qu'après ils l'ont dit, j'aurais préféré que ce soit traité de façon un peu plus au sérieux, parce que là, après, du coup, pour le coup, ça m'a sorti du truc et de l'intérêt du film, effectivement. Mais c'était un joli film, j'ai trouvé, visuellement parlant, en tout cas. Voilà, on arrive gentiment, on a encore vraiment 2-3 minutes. Si tu veux encore dire un mot sur Gaz de France qu'on a vu mardi soir pour terminer notre journée, en tout cas Isha et moi.
Oui, alors Gaz de France.
C'était le film satirique de Benoît Forgeard, c'est ça?
Oui, exactement, qui joue dans le film aussi.
Ouais, avec notamment Philippe Catherine qui joue le rôle du président de la République totalement abruti, on peut le dire.
Oui, il le fait très bien d'ailleurs, mais je trouve qu'au niveau de la satire politique, ça reste. Non, c'est pas superficiel, mais c'est très déconnecté. Je trouve qu'il y a plusieurs bonnes idées, mais qui sont mal développées. Il aurait fallu se concentrer sur 2-3 très bonnes idées au lieu d'en proposer une dizaine qui après, il y aura certaines qui vont absolument nulle part.
Et qui font en effet sketch SNL raté,
ouais,
qui dure trop
long. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, tu vois, des émissions comme le Daily Show, le Colbert Report et le SNL qui font parfois de la très très bonne satire politique. Et là, pour moi, ça faisait sketch
tiré en
raté.
Longueur.
Voilà. Sketch raté, tiré en longueur et sketch qui aurait dû cut for time, qui aurait dû être cut for time.
Mais le coup, il y avait des bonnes idées. Hein. Philippe Catherine en président, toute la séquence d'introduction où il ne sait pas quoi faire était très drôle, j'ai trouvé.
Il y a eu quelques bonnes tirades, en fait, c'est ça.
Il y a des bons moments
mais
qui
alors,
auraient
pu... Mais alors, par contre, et j'ai haï profondément le jeu des acteurs. J'ai trouvé ça insupportable.
Bon, c'est ce jeu un peu français.
Très théâtral, c'est insupportable. J'ai trouvé ça insupportable.
Qui passerait mieux au théâtre, effectivement, que... Bah, ça fait un peu parfois pièce de boulevard filmée, quoi.
Je suis quasiment sûr que même toi et moi, on pourrait mieux jouer que ça.
Voilà. Mais j'en suis pas entièrement sûr vu ma performance ces temps-ci en tant qu'acteur.
Tu joues en tant qu'acteur à ce moment?
Mais oui, je tourne dans une web série. Je t'avais dit avec.
Ah oui.
Où on parle d'histoire des religions et où on dit des bêtises et où je joue très mal. Voilà, donc Gaz de France, effectivement, c'était rigolo sur quelques aspects. Moi, j'ai trouvé ça, Philippe Catherine, très bon. Mais effectivement, dans l'ensemble des choses, c'était quand même assez décevant.
Oui, c'était, disons, sympa, sans plus.
Voilà, je me suis pas trop emmerdé. La fin était un peu longuette, mais...
Alors, moi, je me suis fait chier pendant absolument tout le long. Vraiment, je me suis...
Peut-être que t'es moins connecté. Enfin, moi, je m'intéresse pas mal à la politique française. Les côtés, les petites allusions m'ont maintenu éveillé. Ouais. Mais c'est vrai que...
Je me suis pas endormie. J'ai juste regardé ça
Mais je peux comprendre qu'il n'y ait pas d'intérêt, quoi.
Dans une indifférence, mais la plus totale.
Moi, c'est...
Et c'est même pas que j'ai pas détesté le film. C'est juste qu'il avait aucun intérêt pour moi. Et donc, il m'a laissé totalement
indifférente. Je comprends tout à fait pourquoi, alors, par contre.
Et juste... Ouais, c'était 2 heures de ma vie, 3 heures de ma vie, 4 heures de ma vie que...
Une heure et 25 minutes.
Sérieusement, une heure et demie, ok. Bon, alors, c'était une heure et demie de ma vie que je ne récupérerai pas, mais bon, j'ai déjà passé une heure et demie à faire des bad trips, du coup, je suis plus à ça près.
Voilà, on arrive gentiment au temps qu'on a pour Max, parce que tu dois nous quitter et rejoindre d'autres horizons. On te reverra peut-être dans notre émission dimanche si on a le temps et si ça souvent commence à se couper. Bonne fin de festival à toi. Merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Puis on se verra plus tard pour Love.
On se reverra dans Love, ça c'est sûr.
Trop cool, j'apporte le lubrifiant.
Et on passe.
Thank you, darling.
Et on vous passe Werewolf Bar Mitzvah de Jeff Richmond en attendant la suite de l'émission. Bye Max.
Bye.
À la
prochaine.
Oh man, Trey, look up at the sky. It's a full moon. On the Sabbath.
This is scary.
Break it down.
I was working late on my Haftorah when I heard a knock on my bedroom door. I opened it up and to my surprise, there was a werewolf standing there with glowing gold eyes. He says, tomorrow, my son, you will be
a man.
Tonight's the time to join the Wolfen Clan. Tomorrow you will stand at the Beamer and pray. Tonight let's gaze at the moon and bathe. Werewolf for mitzvah, spooky, scary. Boys becoming men, men becoming wolves. Werewolf for mitzvah, spooky, scary. Boys becoming men, men becoming wolves.
All right, that was great, Trey. Okay, it's over. That's a wrap.
Oh. The next day, what happened? The Tomah didn't teach.
Oh, this man.
I got up in front of everyone to give my little speech. Then my teeth turned into fangs and my nails into claws. And I nearly dropped the Torah when my hands turned into paws. I growled and I roared and my rabbi did as well. It was a fucking werewolf zoo at Temple Beth Emanuel.
Hey, man, where'd you learn all these Jewish words?
My manager, Harvey Lemmings. Werewolf bar mitzvah, spooky, scary. Boys becoming men, men becoming wolves.
I just don't think the idea of the song can sustain itself for that long. It seems a little sweaty now, so.
This whole premise is sweaty. We had a reception at the Larchmont Country Club. They served a real nice brisket and an 8-foot party sub. I danced with my cousins. I got money from my folks. We had a lot of fun making circumcision jokes. Then I remembered the premise of my song. I was at a nice reception, but the werewolf part was gone. So we pulled ourselves together and we're wolfmen again. Just in time for monster fight to begin.
No.
The country club employees were a brain-sucking pack who had all turned into zombies and were on the attack.
No.
So we fought them and some Draculas and Frankensteins too. Cause you gotta love bar mitzvah even if you're not an
R. There's no such thing as Frankensteins.
Steins.
There's no plural of Frankenstein.
Becoming men, men becoming wolves. Werewolf bar mitzvah, kooky, hairy. Boys becoming men, men becoming wolves. I don't want this. I don't like this. This is scary. Turning into werewolves and stuff. You know? I got excited when I saw a poodle on the streets the other day.
Rebonjour et re-bienvenue dans nos bodycasts, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout et qui prennent encore plus au sérieux le NIF, Neuchâtel International Fantastic Film Festival,
Wouhou.
Sur lequel on revient dans cette série d'émissions.
Voilà, et on va revenir sur quelques films encore qu'on a vus.
Pour Neuchvox et Radio Kawa.
Corporate, c'est très bien. On va revenir sur quelques films qu'on a vus ces derniers jours, notamment... Moi, j'avais envie de vous revenir sur quelques courts-métrages et films asiatiques que j'avais vus. J'ai pas vu grand-chose, je suis resté un peu en retrait ces derniers jours, parce que la fatigue et récupérer un peu d'énergie. Mais j'avais quand même envie de vous parler des New Shorts from Asia, cette sélection de courts-métrages asiatiques qu'ils ont lancé l'année passée, si je ne m'abuse, et qui m'a toujours gardé quelques petites gemmes, même si tout n'est évidemment pas forcément toujours au meilleur. Alors, qui était ouvert cette année par une espèce de comédie surréelle chinoise qui s'appelait The Interview, ou sur un peintre qui voulait vendre un tableau, c'était qui m'a un peu endormi. Un film sur une mère et son fils qui est vampire sud-coréenne. Les deux étaient les moins intéressants qui ouvraient le film, mais il y a eu quatre, cinq petites gemmes au final, notamment Lola, une espèce de drama de zombies philippin sur une vieille dame qui vit au milieu d'une zombie apocalypse et qui conserve son fils, sa femme et son petit-fils zombifiés dans son galta. Très touchant, très bien filmé et drôle par moments. Une espèce de petite mini-comédie d'action japonaise sur une petite fille qui se bat contre des... qui m'a rappelé un peu ce film sur des gamins qui se faisaient la guerre. Tu te souviens qu'on avait vu Onif il y a 2-3 ans?
C'est marrant, je disais exactement la remarque que j'ai fait. Ah non, pour
Turbo Kid.
Pour Turbo Kid.
Ben ouais, ouais ce film, je sais plus comment ça s'appelait, ce film avec ces gamins qui se battaient.
Heidi Claire War.
Heidi Claire War, voilà. Là, c'était le même genre d'effet. Elle se battait avec des flingues jouets contre des lézards jouets, avec plein d'effets spéciaux rajoutés, des bruitages. C'était très rigolo, genre film suédois, très fun. Un dessin animé sud-coréen d'horreur qui s'appelait Cocoon sur une jeune femme dont la mère est une espèce de chenille papillon zombie. Très, très beau, même si un peu long.
Le fameux monstre mythique chenille papillon zombie.
Voilà, enfin, le très fameux.
Sur lequel, notamment, Marie Shelley a écrit dans... c'était quoi déjà? C'était...
Papillon cochon.
Butterfly...
Butterfly Stein.
Butterflystein, voilà, c'était Butterflystein.
Mais en
Butterflystein Creature.
En termes d'horreur gothique, c'était pas tout ce qu'il y avait, parce que mes deux vraiment coups de cœur pour le film, l'un était le dernier Weather Report of the End, un film, une comédie taïwanaise vraiment très court, 8 minutes, sur un météorologue qui vit au milieu de l'apocalypse, une espèce d'apocalypse où il y a des pluies, en plus des pluies normales, il y a aussi des pluies des pluies de météorites, des dragons, des kaijus, des invasions d'aliens.
Et attends, des pluies de météorites et des pluies de dragons, ou juste des pluies de météorites et des dragons?
Non, et des dragons.
Dommage, parce que ça aurait été cool.
Des dragons qui pleuvent, oui.
T'imagines une pluie de dragons? Where are my dragons? Everywhere, you fucking bitch!
Attention à la saturation, Aïcha. Non, mais oui.
Mec, je sature, c'est normal que mon micro sature.
Un météorologue qui a de la peine à une mauvaise relation avec sa fille parce qu'il lui avait promis une fois d'aller à Disneyland parce qu'il ferait beau, et en fait il a plu. Et du coup, sa fille lui en veut beaucoup pour ça. Et il va se réconcilier avec elle à l'occasion de son mariage.
Sa fille lui en veut pour ça.
Parce qu'il est trop absorbé par son travail en général, c'est
attends,
un exemple.
Attends, sa fille lui en veut pour ça. Mon père a oublié mon frère dans un stade de foot à 5 heures de train de là où on vivait parce qu'il était bourré. Et elle lui en veut. Elle en veut à son père parce qu'il l'a pas ramené à Disneyland parce qu'il pleuvait.
C'est une comédie. Oh, il pleuvait des météores à sa décharge.
First world problem.
Si on veut. Mais c'était très drôle et très bien filmé et très rigolo et très joli. Avec un kaiju chat. Oui, mais c'était touchant dans le contexte. Et mon vrai coup de cœur, un film.
Je pense que c'est touchant pour les gens qui ont eu une enfance et des parents normaux. Et je pense que c'est très énervant pour les gens comme moi qui ont eu des vrais problèmes.
C'est une comédie, Aïcha.
Oui, non, mais j'aime pas. Bon, ça me...
Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est, en l'occurrence, c'était plus une fille aliénée par son père, pas à cause du travail de son père. C'était une métaphore.
Ouais.
Tu sais, il y a plein d'enfants dont le papa vient pas les voir, qui sont tristes.
Mais oui, non, je sais, oui, mais... Oui, oui, bien sûr, mais... D'accord.
Mais je comprends ce que tu veux dire, Aïcha, oui.
Des fois, c'est énervant de voir des gens qui ont en fait des trucs... Ouais. Je suis désolée, je suis un peu déprimée, ça part tout.
Voilà, et le dernier... Alors, le dernier dont je vais vous parler de ces cours, c'était Awakenings, un court-métrage d'horreur. Et en fait, j'étais un peu endormi jusqu'à... C'est celui qui m'a réveillé vraiment, me donné un coup de fouet, qui m'a maintenu vraiment réveillé pour les autres, parce qu'il était vraiment très bien. Un court-métrage indien, et j'ai
tu
pas...
Tu peux répéter le nom?
Awakenings. Okay. Et j'ai pas tout de suite... du coup, j'ai manqué la première partie du générique. Et je m'en suis rendu compte après, quand on m'a dit... quand j'ai dit à quelqu'un, après avoir vu le film, j'ai dit « Ah, mais c'est totalement inspiré de The Turn of the Screw !» Du tour d'écrou d'Henry James, c'était totalement ça, enfin, très raccourci.
C'était
sur une nounou indienne, en fait, qui s'occupe de deux petits garçons, d'une petite fille et d'un petit garçon en Inde. En fait, les petits sortent du lit pendant la nuit, puis ils retrouvent des formes de deux types. Alors, j'avais vu le tour d'écrou, j'avais lu le tour d'écrou, je connaissais, on l'a étudié à l'université, et j'étais à fond dedans, j'étais « Ah, mais c'est exactement, c'était ça !» Puis j'étais très fier de moi jusqu'à ce que je dise à mon voisin de siège, qui me dit « Bah oui, il le disait dans dans le générique au début, c'était inspiré par The Turn of the Screw. » J'étais là « Bon. » Bah ça a cassé mon truc, mais j'étais content de l'avoir retenu. Et puis c'était vraiment une très belle exécution du livre, tout en raccourcissant ça follement. 13 minutes, et c'était vraiment une tension parfaite, quoi. Très beau.
Ça, c'est pour vous, chers futurs étudiants en lettres.
Voilà,
qui
vous réjouissez-vous de lire le tour d'écrou de
Non, 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 regardez The Awakening à la place.
Ils avaient fait aussi un film avec Nicole Kidman, non?
Ouais, The Hours.
The Hours, c'est pas le film sur Wolf, The Others peut-être, non?
Possible.
Parce que The Hours, c'est le film sur Virginia Woolf, il me semble.
Alors, ça doit être The Others.
Ou quelque chose comme ça. Voilà, les New Shorts Omega, ça valait vraiment le coup cette année. J'étais content à part les deux premiers qui m'ont un peu laissé de marbre. Et j'ai aussi vu un autre film asiatique qui pour le coup était vraiment très très beau, un documentaire que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle The Kingdom of Dreams and Madness, qui est sorti plus ou moins globalement je crois l'année passée, qui date de 2013, et qui est un film sur le studio Ghibli, sur les studios Ghibli, et surtout sur Hayao Miyazaki quand il s'apprête à finir son dernier film Le Vent se lève, qui est son dernier film en date et qui sera peut-être son dernier film parce qu'il a annoncé sa prise de retraite à la fin du film, c'est ce qu'on voit à la fin du film. Et c'est un très très beau documentaire. La réalisatrice a eu un accès incroyable au studio Ghibli. Elle les voit vraiment de très près et il accepte vraiment d'être filmé de très très près, Miyazaki. Et c'est fantastique parce qu'on voit tout à fait le processus créatif d'un type qui est... on pourrait s'imaginer comme un génie passionné. En fait, c'est plus un artisan patient, attentionné. Mais c'est un maître, un génie qui me fait un peu figure de Tolkien des temps modernes, il est vraiment très impressionnant. C'est une figure très touchante aussi. Et on voit justement, ça relate en partie l'histoire du studio, ses collaborations, ses premières armes sur le château de Cagliostro, sur Nausicaa, et jusqu'à Le Vent se lève, justement, sa relation avec son père, qui fabriquait des pièces pour avions de chasse pendant la guerre. Vraiment une interrogation sur le Japon en général, sur le, il mentionne ses combats politiques, enfin combats politiques, ses interventions politiques. Vraiment, et très très beau, sans pour autant beaucoup montrer de films de Miyazaki. Mais je pense que si vous avez vu ces films, c'est quand même beaucoup plus appréciable pour comprendre l'atmosphère, pour comprendre tout ce qui s'y passe. Et vraiment très très beau, quoi. C'était, ça, je suis sorti limite en larmes. Un très très bon moment. Si vous aimez les documentaires sur le cinéma, sur la création en général, écoutez Miyazaki parler de son processus créatif et de pourquoi on crée des films et se poser des questions auxquelles il ne répond pas forcément, c'est vraiment très très beau. Si vous avez l'occasion de le trouver en DVD, de le voir, si vous aimez les studios Ghibli, c'est un must-watch. Si vous n'êtes pas forcément fan de Miyazaki, c'est quand même un must-watch parce que c'est vraiment très très beau. Voilà pour The Kingdom of Dreams and Madness, qui était projeté dans la catégorie Histoire du genre, cette catégorie qui passe des documentaires sur le genre notamment.
Ok.
En général. Très très beau.
Alors moi, pour mardi, j'aimerais juste parler de The Invitation que je suis allée voir.
Que je vais aller voir, je crois, samedi, moi.
Bon, alors tu sais quoi, on en parlera samedi. Okay.
Tu peux en dire deux mots si tu veux brièvement dire.
Alors moi, j'ai juste.
C'est le dernier Karine Kusama, c'est ça?
Tu vas me le dire, toi.
En tout cas, c'était elle qui avait réalisé Jennifer's Body, il me semble.
Ah ouais?
Donc ouais, ouais.
Ah, parce que pour le coup, c'est radicalement différent.
Alors, peut-être le pitch, deux mots, j'ai pas la chose sous les yeux.
Alors,
en fait,
c'est des anciens, enfin, des gens qui étaient super amis et qui reçoivent tous une invitation d'une fille qu'ils n'ont pas revue depuis 2 ans, qui les invite chez elle. Et c'est une soirée un peu tranquille entre potes et tout ça, entre vieux potes qui se retrouvent. Je sais pas s'ils se sont vus entre temps certains, mais bref. Et les deux, il se trouve que leur ami fait maintenant partie d'une secte. Et c'est un espèce de huis clos paranoïaque où on sait pas si le mec a des raisons d'être paranoïaque ou pas, etc. C'est très intriguant. Ça m'a fait penser. Ça m'a fait un petit peu penser à Your Next sans trop savoir pourquoi. Et à Max aussi, ça lui a fait penser à Your Next. Il comprenait pourquoi ça avait fait penser à Your Next, mais je ne saurais pas vraiment te dire exactement pourquoi, donc on en reparlera quand tu l'auras vu.
Peut-être que j'apporterai une note. C'est projeté dans la compétition internationale, hein, comme Gaz de France, dont on vous a parlé aussi. Et tu voulais aussi parler de The Corpse of Anna Fritz?
The Corpse, non, j'ai pas envie d'en parler.
D'accord.
Je vais pas aller le voir,
j'ai pas le temps d'aller
okay,
le voir.
Alors,
donc,
The Corpse of Anna Fritz était vraiment bien.
Toujours compétition internationale, c'est un film espagnol. Hein.
Oui. Oui, mais oui, c'est un film vraiment bien sur en fait une star, donc Anna Fritz, meurt et se retrouve à la morgue. Et trois mecs décident de violer son cadavre, et pendant qu'ils violent son cadavre, ils la réaniment, elle se réveille.
Ok, donc je mettrai un trigger warning dans la vidéo, la description de la vidéo.
Ouais, c'était
de l'émission.
C'était très tout le passage du viol, c'était très dur à voir, mais très bien joué. C'était pas un viol inutile, c'était. Enfin, après, il y a un affrontement entre eux, mais c'était.
Ça devient un rape and revenge, du coup.
Ça devient un rape and revenge, mais d'habitude, tu sais, les rape and revenge sont vraiment très violents du côté revenge. Non, là, c'était pas un rape and revenge, c'était beaucoup plus subtil que ça.
Ok.
C'est pour ça, c'est un film que j'ai vraiment trouvé bien.
D'accord. Et tu voulais dire deux mots sur Der Bunker dans la compétition, dans les Ultra Movies pour le coup.
Ah ouais, alors c'était complètement chelou, mais alors vraiment très très bizarre. Et je ne sais pas, je ne crois pas avoir compris. Je ne sais pas si je sais pas si c'est un bon film ou pas. Je ne sais pas ce que c'était en fait, mais j'ai passé un bon moment.
Alors ça semble pouvoir décrire pas mal de films que je vois au NIF généralement, en fait.
Ouais,
donc,
voilà, c'est ça. C'est
un film allemand, c'est ça, sur
un film allemand.
Un étudiant qui donne des cours alors au fils d'une famille.
Ouais, un étudiant qui en fait a un étudiant assez âgé quand même, mais qui a qui a besoin d'une chambre où dormir pour terminer un travail sur lequel il bosse parce qu'il doit trouver la théorie du tout, enfin une théorie de sur je ne sais pas quoi, qui mélange mathématiques, physique, tout ça. Et la famille lui propose donc, il trouve un bunker dans lequel il peut aller, sans savoir que c'est un bunker. Et la famille, en fait, les parents le poussent un peu à donner des cours au petit garçon. Petit garçon qui est interprété par un acteur qui a l'air d'avoir la trentaine, en tout cas. On ne sait pas si c'est pour ajouter au décalage ou autre chose. Non, c'est vraiment très, très particulier. Mais moi, j'ai passé un bon moment.
Maintenant, le dernier film que je vais voir au NIF après la fin de la
cérémonie de clôture.
Donc, je verrai ça dimanche, sans doute.
Voilà.
Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait pour. On a quand même réussi à faire presque 45 minutes, presque une heure d'émission.
Okay.
Avec tout ça, 45 minutes en tout. Donc, on vous souhaite un bon week-end s'il n'a pas encore commencé pour vous. Enfin, s'il commence pour vous. Et pour nous, le courage de terminer toutes nos séances et de pouvoir revenir vous en parler après la cérémonie de clôture dimanche, si tout va bien, normalement. Du coup, d'ici là, on vous souhaite une bonne suite et à tout bientôt.
À tout bientôt, bisous.
Et on vous laisse avec John Jett and the Blackhearts et Bad Reputation.